Bonjour et bienvenue dans la chronique naturaliste de la Nichoule, une chronique qui est animée par la LPO Royan-Vercors, la Ligue de protection des oiseaux et de la biodiversité. Aujourd'hui dans les studios, on accueille François. Bonjour François.
Bonjour Radio Royan-Vercors.
On a également Luc à nos côtés.
Bonjour.
Et également Cali, une observatrice qui est venue pour la journée. Alors aujourd'hui François, tu vas nous parler des rapaces diurnes.
Voilà, parce qu'on va faire un carré. Ça nous avance bien de savoir qu'on va faire un carré. Un carré rapace, c'est-à-dire que pendant tout le printemps jusqu'au mois de juin, on va identifier et savoir quels sont les rapaces qui vivent, qui volent autour de Saint-Thomas-en-Royans, ça va jusqu'à Aubrive. Donc il y a un carré qui fait 2,5 km par 2 km. Et à l'intérieur, pendant, on va faire des points d'observation, ce n'est pas des points d'écoute, des 10 points d'observation, pour noter tous les rapaces qui y sont. Donc ça va être très précis, parce qu'on va y passer, il y a 10 points qu'on passe 6 fois au printemps, donc c'est vraiment pendant une demi-heure, donc là on a vraiment du temps à... Rien ne va nous échapper. Donc l'idée, c'est au niveau national, c'est des protocoles qui sont des carrés comme ça, qui sont tirés au sort. Qui sont tirés au sort. Il se trouve qu'on en a un chez nous, là, Saint-Thomas, et on va en faire aussi un à Vassieux. Et voilà, l'idée, c'est de voir vraiment tous les rapaces qui peuvent y passer, qui peuvent nicher. C'est vraiment à l'époque de la nidification. Et donc sinon, nous, on passe régulièrement, mais quand on s'arrête 5 minutes ou autre, on ne voit pas tout. Là, l'idée, c'est vraiment de tout voir les rapaces diurnes.
Et alors, quel type de rapace tu pressens que vous allez pouvoir observer à Saint-Thomas? Parce que c'est un peu la fin de la plaine, le début des montagnes, il y a deux environnements en même temps.
Voilà, donc là, je vais faire un peu une liste que je n'ai pas l'habitude de faire de tous les rapaces qu'on peut voir, du plus petit au plus gros. Donc le plus petit, c'est le faucon cresserel, que tout le monde connaît, celui qu'on appelle le Saint-Esprit, qui vole sur place en battant des ailes, suivant le vent. S'il y a peu de vent, il est très incliné. S'il y a beaucoup de vent, il se met à plat, il bat à peine des ailes, là, c'est plus facile. Facile pour lui en fait. Et il fait ça évidemment pour chasser les micro-mammifères et les oiseaux, parce qu'il bouffe aussi des oiseaux. Et ça, c'est le plus petit, c'est le plus commun qui sera certainement présent dans ce carré. Donc après, il y a le faucon hobereau qui est beaucoup plus rare, mais qui peut être présent uniquement en période de reproduction. C'est un migrateur, l'hiver il n'y est pas du tout. Le cresserel, il est là toute l'année. Hein. Le hobereau, il vient des fois se reproduire, on l'avait vu à Saint-Laurent une année. Donc il est possiblement, il peut être par là. Alors le faucon pèlerin aussi, donc c'est le gros faucon. Alors là-bas, il n'y a pas vraiment de falaise, donc c'est pas sûr qu'il niche là-bas. Il y a peu de chances qu'il niche. Par contre, il peut passer. Lui, il peut chasser, il peut aller chasser à 2, 3, 4 kilomètres. Donc on sait qu'il niche sur le Combe-Laval, hein, on l'a su sur Combe-Laval entre autres. Et donc il peut éventuellement passer. Donc lui, il est connu quand même par ici. Ensuite, de la même taille à peu près, c'est l'épervier d'Europe, que dans les campagnes, on appelait le tiercelet, parce que le mâle est un tiers plus petit que la femelle. Donc voilà. Alors après, eux, dans le temps, ils mettaient le pèlerin et le cresserel, c'était tout pareil, c'était tout du tiercelet. Voilà, donc l'épervier qui est quand même très présent, qui aime bien les forêts. Lui, il va chasser dans les forêts, il est très très habile pour suivre les oiseaux dans ces conditions-là. Il bouffe énormément d'oiseaux, hein, lui, c'est ses proies. Et en plus grand, mais qui se ressemble énormément, l'autour des palombes. Alors lui, c'est un tueur, lui. C'est beaucoup plus gros que... Enfin, c'est plus gros que l'épervier, mais ça ressemble énormément. Et lui, il peut chasser, il peut attraper des oiseaux de grande taille. Hein. Des pigeons ramiers qui sont un peu gros, voire plus gros. C'est vraiment... la femelle est la taille d'une butte, pratiquement. Le mâle est plus petit. Et donc, c'est assez peu connu, parce que c'est très discret. Il n'y en a pas énormément. Plus les rapaces sont gros... Plus il leur faut une superficie importante. Donc l'autour est présent, mais assez mal connu en fait. Donc on peut avoir. Moi j'en avais vu une fois là-bas, oui, j'avais noté une période de reproduction. Donc là voilà, c'est la bonne manière pour voir s'il pourrait se reproduire. Bon, ensuite il y a les busards. Donc c'est très rare quand même ici. Il y a trois espèces de busards. Chez nous on peut voir le busard Saint-Martin éventuellement. Donc on ne l'a jamais vu comme nidificateur. Un hiver, il y en a un qui s'était resté sur Roche-Chinard, la Motte, tout ça. Mais voilà, il n'a fait que passer. Donc là, ce serait une bonne surprise de voir qu'il y a un busard par ici. Ensuite, donc, à peu près de la même taille, la plus commune, c'est la buse variable, donc qui est présente toute l'année. Qui niche de toute façon par ici. Après, trouver les nids, c'est un peu compliqué. Mais c'est elle qui est vraiment la plus commune, parce qu'on la voit vraiment toute l'année. Alors, sa copine qui se ressemble énormément, mais qui vit complètement différemment, c'est la bondrée apivore. La bondrée apivore, c'est un rapace, donc la taille d'une buse, qui est migrateur total, parce qu'elle se nourrit essentiellement de couvains d'insectes. C'est-à-dire qu'elle, quand elle voit des nids de guêpes qui sont dans la terre, par exemple, que nous, on voit à peine, hein, elle voit et puis elle déterre. Elle les déterre et elle bouffe. Et c'est vraiment impressionnant. Et elle est, comme elle bouffe des couvains d'insectes, elle est migratrice totale, c'est-à-dire que l'hiver, rien n'a plus. Mais par contre, sur le Vercors, par chez nous, elle est très présente, en fait. Mais très difficile à déterminer quand on les voit. Donc il y a des critères, il y a le chant qui est différent aussi, mais le vol aussi, mais qui est quand même bien présente et qu'on pourrait tout à fait voir là-bas. Après, de la taille un peu similaire, il y a le milan noir. Alors lui, qui est très présent à partir du mois de mars, qui arrive en meute, là, ils sont très présents, très, très grégaires, ils vivent en communauté. Puis le milan royal, son copain qui, lui, peut veiller toute l'année. Donc on a un couple qu'on suit à côté, là, du carré, ou même dans le carré, c'est à Saint-Laurent, ça va jusque là-bas. Et on a un autre qu'on suit à Auriol. Donc lui, il est présent, il niche par ici, on le connaît. Après, en plus gros, on devient dans les gros, maintenant c'est l'aigle royal, donc qui ne va pas nicher sur le carré de Saint-Thomas, mais qu'on sait qu'il niche à Comblaval et dans les gorges de la Lyonne, qu'on suit aussi. Et puis de plus en plus gros, on arrive aux vautours, donc les vautours fauves, qui peuvent passer. Moi, j'ai déjà vu quand il y a des carcasses qui traînent, on peut en voir 1, 10, 20, 30, quand ils trouvent une carcasse. Et donc on peut les voir passer. Ils ne vont pas nicher là parce qu'ils sont très grégaires. Ils nichent en communauté dans les falaises du Diois, mais pas par ici. Donc il y a le vautour moine aussi qui a été réintroduit. C'est des oiseaux qui ont été réintroduits, ça, et maintenant qui se portent très bien. Et puis le plus grand, le plus majestueux, c'est le gypaète, qui a été vraiment réintroduit et qu'on voit de plus en plus. Donc on peut le voir passer éventuellement, mais voilà.
Et donc ces comptages et ces observations, donc elles vont être faites sur un carré, donc tu disais, autour de Saint-Thomas. Comment ça se passe, ce tirage au sort? Est-ce que Saint-Thomas a été choisi parce que c'est à la confluence de différents territoires, ou est-ce que c'est un hasard total?
Non, c'est pas choisi, c'est tiré au sort. Donc c'est des scientifiques qui mettent ces protocoles-là. Ils mettent dans leur machine qu'ils veulent... ils font d'abord des carrés de toute la France de 2 km sur 2, et après, par exemple, sur la Drôme, ils volent 5 ou 6 carrés. Et c'est la machine, avec des critères, parce qu'il faut que les carrés ne se touchent pas. Il faut qu'il y ait peut-être, 5 km entre deux carrés, des trucs comme ça. Et c'est la machine qui tire au sort, en fait. Voilà.
Et donc, tu disais, il y en a un deuxième dans le coin, c'est celui de Vassieux.
Voilà.
Donc là, c'est pareil, il va y avoir le même protocole qui va être établi.
Voilà, exactement pareil, sur le Vercors.
Et est-ce que tu sais si vous allez pouvoir publier peut-être vos observations? Est-ce que c'est quelque chose que tu vas pouvoir peut-être nous en parler à la fin de vos observations, ou ça reste un peu confidentiel?
Non, c'est pas du tout confidentiel. J'en parle à la radio. Donc après, nous, on est une équipe, on est une dizaine là pour aller suivre, parce que ça peut prendre du temps, parce que 10 points pendant une demi-heure, passer 6 fois, ça va occuper, il faut être plusieurs, quoi, voilà. Et bien sûr qu'on va publier de ce qu'on fait après. Donc ça ne va pas des sorties publiques, parce qu'il faut être plusieurs, mais il ne faut pas être très nombreux. Donc là, ça va être les gens de notre groupe là, qui vont...
Donc des membres de la LPO,
voilà,
Royan Vercors.
Qui vont faire, et puis après, au bouche à oreille, on pourra être quelques personnes, quoi, mais on ne peut pas être très nombreux. C'est quand même une observation scientifique assez précise. Mais bien sûr qu'on va publier après.
Oui, tu ne parles pas de l'aigle du tout.
Si, j'ai parlé de l'aigle royal.
Ah, t'en as parlé. Ah,
voilà.
Je ne l'ai pas entendu.
Mais on fera une chronique pour l'aigle.
D'accord.
L'aigle est présent.
Il est bien présent dans le coin, oui.
Ah ben, il niche, comme l'année dernière, à Comblaval, à Gorge la Lyonne et Gorge la Vernaison. Voilà, ça ne s'est pas très bien passé pour les jeunes, mais il niche. Donc on peut le voir passer à Saint-Thomas, on peut le voir passer, mais uniquement, il niche pas là-bas de toute façon.
Et petite question, parce que depuis le début, tu parles de rapaces qui sont soit nidificateurs, soit ils ne le sont pas. Comment est-ce qu'on sait qu'ils vont venir nicher ici? Quels sont les indices de nidification?
C'est maintenant, voilà, au printemps, quand on voit des couples, qui paradent. Donc là, c'est le premier critère. Couple de parade, ça veut dire que c'est nidificateur probable.
Ok, parce qu'ils vont,
voilà,
ils vont faire
parce
leur
qu'ils
parade.
Voilà. Ils ne vont pas s'amuser tous les deux pour rien. Hein, quand les oiseaux, tout ce qu'ils font, c'est pour une raison bien précise. Et puis après, il faut trouver les aires, les nids, et ça, c'est compliqué. Et puis après, quand les jeunes à l'envol, comme l'aigle royal, le jeune qui vole, il a des cocardes, il a des différences au niveau des colorations qui est très nette. Donc là, on peut les déterminer. Après, le milan noir, c'est pas du tout évident de déterminer un jeune. Il y a quelques critères, quoi, voilà. Voilà, c'est ça, et ça demande d'étudier, d'être sur le terrain, quoi.
Eh ben, super, merci François pour cette chronique sur les rapaces d'urne, et on souhaite donc de belles observations à la LPO Royan-Vercors qui va se charger de ces comptages. On se retrouve la semaine prochaine pour une prochaine chronique. À bientôt.
À bientôt, Royan-Vercors.